Europe 1.
Jean-Yves Dormagen, bonjour.
Bonjour.
Donc, professeur de sciences politiques, vous avez travaillé sur les sondages et la constitution d'échantillons représentatifs pendant une bonne quinzaine d'années, hein, avant de créer votre propre institut, Cluster 17, qui élabore notamment le baromètre politique de l'hebdomadaire Le Point. Or, qu'est-ce que vous pointez dans le numéro de cette semaine? Eh bien, que ça n'est plus le centre qui rassemble, mais les extrêmes. Le centre s'effondre, c'est-à-dire Gabriel Attal, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire?
Oui, alors c'est pas tout à fait un effondrement, c'est plutôt une érosion. C'est une érosion qu'on observe d'ailleurs depuis la dernière élection présidentielle, hein, depuis 2022. Donc effectivement, régulièrement, on voit que la base électorale d'Emmanuel Macron et de Renaissance se réduit. Et comme vous l'avez dit, alors elle se réduit avec des dynamiques qui sont, on le voit aujourd'hui, très nettement favorables au Rassemblement national d'un côté, et plus globalement à un espace de droite plutôt identitaire, conservatrice, qui aujourd'hui pèse environ 40% dans les sondages. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il se réduit au bénéfice en grande partie à gauche du Parti Socialiste. L'organisation, enfin la liste Parti Socialiste Place Publique est celle qui bénéficie aujourd'hui le plus de l'érosion sur sa gauche du macronisme. En gros, le macronisme perd de tous les côtés. Il perd à gauche, il perd à droite. Et effectivement, il s'érode de manière assez conséquente.
Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que l'électorat de droite se focalise sur Jordan Bardella, qui est en train de dépasser Marine Le Pen. Marion Maréchal réalise la plus forte progression, plus 15 points en un mois. Éric Zemmour, c'est plus 12 points. Et le premier dans l'électorat de droite appartenant à LR, c'est Éric Ciotti, qui n'est que 8e. Et à gauche, vous dites que c'est François Ruffin qui est le plus concentré dans l'ensemble de la gauche, comme Jordan Bardella l'est dans l'ensemble de la droite. C'est là où je disais, ça n'est plus le centre qui rassemble, mais les extrêmes.
Oui, en tous les cas, il y a une sorte de logique bipolaire qui se remet progressivement en place. Alors on verra si le phénomène va jusqu'au bout, mais il y a une sorte de logique bipolaire qui rappelle un peu l'ancienne logique gauche-droite, sauf que ce ne sont plus les mêmes acteurs qui l'incarnent. Effectivement, le Rassemblement national devient de plus en plus une alternative politique à vocation majoritaire. On voit que les intentions de vote aujourd'hui pour les élections européennes sont très élevées, parfois plus de 30%. On voit aussi que Marine Le Pen est la personnalité politique préférée des Français, que Jordan Bardella est lui aussi très haut dans les enquêtes de popularité, hein, puisqu'il est troisième dans le baromètre de popularité que nous faisons avec le magazine Le Point. Donc, effectivement, vous avez aussi une progression de Marion Maréchal. Donc, on voit que cet espace politique-là est en train d'incarner, en gros, ce qu'était la droite française auparavant. Hein. C'est en gros l'espace du sarkozysme et ce qui était l'espace de la droite. Et vous avez une logique un peu bipolaire qui se remet en place aussi de l'autre côté, avec une personnalité comme François Ruffin, qui effectivement est très haut, hein, il est le second dans notre baromètre. Et comme vous le disiez, il a la particularité d'être populaire sur tous les segments de la gauche, c'est-à-dire qu'il plaît beaucoup depuis les individus qui se considèrent comme très à gauche jusqu'aux individus qui se considèrent de centre-gauche, qui réussissent cette équation, que de l'autre côté, comme vous l'avez souligné aussi, Jordan Bardella réussit. C'est-à-dire que Bardella a la sympathie d'un large spectre qui va des électeurs se considérant comme très à droite jusqu'au centre-droit. Et derrière ces phénomènes, moi, j'ai tendance à avoir une sorte de retour à une bipolarité politique qui rappelle encore une fois un peu l'ancien clivage gauche-droite, sauf qu'il n'est plus incarné effectivement par les mêmes figures, mais par des figures qui sont issues les uns de la droite radicale, les autres plutôt aussi de la gauche radicale, et ça dit aussi quelque chose de la polarisation de la société.
Et pour les européennes, qu'est-ce que vous observez, Jean-Yves Dormagen ?
On observe que le Rassemblement national est très haut. Hein. Le dernier sondage que nous avons réalisé le mesure à 30%. Donc le Rassemblement national aujourd'hui est très haut. Et plus globalement, l'ensemble des droites qu'on peut qualifier d'identitaires, de conservatrices, représentent environ 40% des suffrages. Donc un peu la même chose qu'en Italie, hein, par exemple. Giorgia Meloni et la présidente du Conseil a gagné les dernières élections législatives. C'est à peu près le même rapport de force. On observe une progression du Parti Socialiste et de Place Publique, de la liste conduite par Raphaël Glucksmann. Une situation assez difficile pour les écologistes à gauche et une érosion. Alors, c'est pas un effondrement, c'est plutôt une érosion, mais une érosion assez régulière de la liste Renaissance, qui fait qu'aujourd'hui, entre la liste Renaissance et la liste socialiste, Il n'y a plus que 5 points d'écart, c'est pas beaucoup finalement.
Et la popularité de François Ruffin ne bénéficie pas à la liste La France Insoumise.
Non, mais François Ruffin, je pense, est perçu comme un individu, un électron libre, un individu hors parti. Il est finalement assez peu assimilé à la France Insoumise dans l'opinion, ce qui explique d'ailleurs qu'il soit populaire dans des segments modérés de l'opinion. Le centre-gauche, donc des électeurs qui jusqu'à présent votaient massivement pour Emmanuel Macron, ont une grande sympathie, enfin dans les sondages, déclarent une grande sympathie pour François Ruffin. Donc c'est quelqu'un finalement qui est apprécié très au-delà de l'espace de la France insoumise et de cet espace partisan auquel il est finalement assez peu associé dans l'opinion.
Je voudrais, Jean-Yves Dormagen, qu'on s'arrête un instant sur la méthode utilisée par votre institut de sondage Cluster 17. C'est une méthode assez innovante et qui a suscité pas mal de critiques au départ, y compris de la part de la commission des sondages. Mais bon, maintenant, c'était il y a 2 ans. Qu'est-ce qui vous différencie des autres instituts de sondage ?
Oui, alors depuis 2 ans... On a prouvé qu'on faisait des très bons sondages, et pas seulement en France d'ailleurs. On a été très performants sur l'élection présidentielle de 2022. On était les seuls à avoir observé que Renaissance n'aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale. On a aussi fait des sondages sur d'autres pays. En Espagne, on a été les meilleurs. On a été classés comme les meilleurs sondeurs en Espagne. On avait observé qu'en Espagne, les droites, contrairement à ce qui était annoncé cet été, ne gagneraient pas les élections législatives. Donc je crois qu'on a prouvé... par les preuves des faits, notre capacité à sonder et à bien sonder. Ce qui nous distingue principalement, c'est notre approche de l'opinion. Plutôt que d'utiliser les méthodes traditionnelles d'analyse qui, selon nous, sont aujourd'hui assez peu performantes et assez peu explicatives, on a un système de segmentation de l'opinion par groupe de valeurs. C'est-à-dire qu'on réunit les individus en fonction de leurs valeurs profondes sur des sujets qui nous semblent être des sujets déterminants aujourd'hui. Ça peut être des enjeux de société, ça peut être le féminisme, l'homoparentalité, ça peut être le rapport aux migrants, le rapport à l'islam, le rapport à l'économie, le rapport aux élites. Donc sur tous ces sujets-là, on réunit les individus par sensibilité. On a 16 groupes. Hein, si vos auditeurs veulent faire le test sur notre site, ils verront comment ça fonctionne et à quelle famille politique ils appartiennent. Et cette analyse par famille politique, par sensibilité idéologique, permet, je crois, de voir assez finement les dynamiques qui traversent la société, la manière dont évoluent les rapports de force, de comprendre les dynamiques électorales, et pas seulement d'ailleurs, hein, d'avoir une lecture plus globale de ce qui se passe dans la société.
Je vous interromps, Jean-Yves Dormagen, on va faire une pause et on y revient tout de suite après.
9h-10h,
c'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Jean-Yves Dormagen, professeur de sciences politiques. Il est aussi le patron de Cluster 17, un institut de sondage qui élabore notamment le baromètre politique de l'hebdomadaire Le Point. Vous ne travaillez pas seulement pour Le Point, et bien entendu, vous avez travaillé avec Cluster 17 sur le nouveau clivage écologique. Où est-ce qu'il se situe aujourd'hui, d'après vous, en France ?
Ce qu'on observe, c'est que contrairement à certaines idées reçues, il n'y a pas de consensus en fait sur les enjeux écologiques. Alors, il n'y a déjà pas de consensus dans la société sur l'origine humaine du changement climatique. Il y a quand même un quart des Français qui considèrent que ce changement n'est pas lié aux activités humaines, n'est pas lié à la production de gaz à effet de serre en particulier. Donc là, déjà rien que sur le constat lui-même, il y a moins de consensus que ce qu'on pourrait parfois imaginer dans la société. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une très forte résistance aujourd'hui dans certains clusters, hein, dans certains des segments de la population que l'on étudie. Il y a une très forte résistance aux politiques de transition écologique sur les enjeux, par exemple, de la voiture. Il y a des fortes résistances. Hein, l'interdiction de vendre des voitures à moteur thermique à l'horizon 2035 passe assez mal dans l'opinion, pour prendre un exemple concret. On sait qu'il y a aussi de fortes résistances à l'installation de parcs éoliens dans les zones rurales. Les populations concernées y sont très majoritairement hostiles. Et sur tout un tas de sujets qui ont trait à la transition écologique, on voit monter les résistances. Ce qui se répercute d'ailleurs dans les positions des acteurs politiques.
Mais ça n'a rien à voir, j'ai l'impression, avec ce qui se passe aux États-Unis, où vous avez Donald Trump, par exemple, qui a pu dire franchement des choses qu'on qualifie de climato-négationnistes, quasiment. En France, ça ne se passe pas comme ça. C'est plus dans les méthodes de transition que ça diverge.
Oui, en France, il n'y a pas de prise de position ouvertement climato-sceptique, c'est-à-dire qui nie le changement climatique, ne serait-ce que parce que l'ensemble des Français, ou presque, est convaincu de l'existence de ce changement. Quand vous faites des études là-dessus, vous apercevez que 97% des Français considèrent que le climat est en train de changer. Donc sur ce point-là, il y a un consensus. Là où il commence à y avoir du désaccord, là où il commence à y avoir des résistances, c'est plutôt sur les origines humaines. Oui. Mais même sur ce plan-là, effectivement, il y a peu d'acteurs politiques qui contestent ouvertement et frontalement le consensus scientifique et, en gros, les positions du GIEC et des savants qui travaillent sur le climat. Là où il y a effectivement des oppositions qui surgissent et des discours opposés, c'est sur les politiques elles-mêmes. Et c'est aussi sur l'idée que, finalement, l'écologie serait un prétexte utilisé par certains pour imposer un changement des modes de vie ou un changement des habitudes des Français. Si vous voulez, c'est que derrière l'enjeu écologique, il y aurait d'autres enjeux cachés. Ce discours-là est de plus en plus porté par le Rassemblement national en France, par exemple. Marine Le Pen a pris des positions qui allaient dans cette direction en disant que, en gros, c'était une écologie punitive portée par des idéologues dont le but, finalement, au-delà des questions climatiques, était de transformer, d'imposer de nouveaux modes de vie, de changer le mode de vie des populations. Et ce type de discours est assez bien accueilli dans toute une partie de l'opinion.
Jean-Yves Dormagen, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, on en a déjà parlé dans cette émission, parce que c'est tout à fait nouveau, c'est le clivage entre hommes et femmes qui est en train de remplacer le clivage de génération. Est-ce que vous l'avez constaté dans vos études d'opinion ?
Oui, tout à fait. Alors, on a fait sur ce sujet une grosse enquête qui sera publiée dans Le Point le 25 avril et qui est un sondage qui donne des résultats, me semble-t-il, assez passionnants parce qu'on voit que ce clivage qui générationnel que l'on connaît assez bien et qui est assez logique, on sait qu'en gros, depuis toujours, les nouvelles générations sont plus progressistes et les personnes plus âgées, les seniors, ont tendance à être plus conservateurs sur les questions sociétales, sur tout un tas de sujets. On voit que la situation est en train de se compliquer par l'apparition d'un nouveau clivage de genre au sein des catégories les plus jeunes de la population. Il y a de très grosses différences de valeurs et d'opinions entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de nouveau et qui, d'ailleurs, n'est pas spécifiquement français. C'est quelque chose qui a été observé aux États-Unis, qui a été observé dans un pays aussi comme la Corée, qui a été observé en Tunisie, c'est-à-dire dans des contextes extrêmement différents où on voit de plus en plus les hommes et les femmes s'opposer et s'opposer de manière de plus en plus radicale sur des sujets de société très importants.
Donc en gros, les femmes sont de plus en plus de gauche, les hommes de plus en plus de droite, ce serait ça ?
Oui, d'une certaine manière, ce serait ça. C'est-à-dire quand vous regardez les positions des jeunes femmes et des jeunes hommes sur tout un tas de sujets de société, par exemple l'écriture inclusive, alors des sujets qui sont directement liés au genre, hein, vous avez des différences qui sont très importantes, enfin, qui sont des différences de 30 points, 40 points sur certains sujets. Mais ça va au-delà des enjeux de genre direct. Alors c'est sur ces questions de genre que les écarts sont les plus forts. Mais ça va aussi, ça porte aussi sur des questions comme les migrants, par exemple. Les jeunes femmes sont très massivement hostiles à l'expulsion des migrants en situation irrégulière, pour prendre un enjeu de société actuel. Donc, elles y sont très opposées, alors que les jeunes hommes, ils sont plutôt favorables. Et là, vous avez vraiment des différences de genre qui sont importantes. Ça se traduit dans les votes aussi. Les jeunes femmes ne votent quasiment jamais Reconquête, n'ont quasiment pas voté Éric Zemmour à l'élection présidentielle, alors qu'une part significative des jeunes hommes ont voté pour cette candidature. Donc vous avez vraiment un clivage de genre chez les jeunes qui est très fort et très marqué.
Merci Jean-Yves Dormagen, un sujet dont on reparlera probablement.